pas à pas, entre captures, entretiens. Une sorte de polyphonie du désordre. Délire et désir, ligne d'air enchevêtrée.
Du marché, le communisme du soin. Alors notre monde repose sur la division, mais il a peur des différences selon l'auteur. Notre monde se prétend global, mais personne ne comprend la dimension révolutionnaire de cette simple idée. On est tous du même monde.
J'avais envoyé par mail un fichier audio avec des observations sur mon livre et d'autres choses. Nous avons convenu que je procéderais de même en retour. Je ne vous ai jamais vu. C'est une chose bien étrange que de s'adresser par la voix à une autre voix, son corps. Une voix avec ses nuances, mélopées, intonations, interruptions, silences, glissades, trébuchements. Vous en savez quelque chose sur les voix puisque vous faites des constructions radiophoniques. Moi aussi je suis obligé de m'y intéresser. Puisque dans les entretiens thérapeutiques, dans nos contrées institutionnelles, il s'agit de voix et de corps en coprésence. Là aussi, les voix s'entrelacent, se remplacent, s'accordent ou discordent, se ratent, s'interrompent ou se taisent. Et toutes les nuances qui vont avec, voix monocorde ou enthousiaste, irritée, hésitante.
Qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste.
Yes, I would certainly agree with that, not only in theory, but also in action.
Contre les prescriptions de réinsertion sociale, il ne peut pas bien faire son travail sans s'engager dans une éthique de la relation qui rompt de facto avec un système qui intègre ou parfois neutralise carrément les différences.
On vous l'a dit, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir.
Le premier possédé se lève, c'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un hauka.
Alors, pour que les individus puissent se rencontrer, il ne faut pas les identifier, les caractériser, les régler préalablement à leur rencontre. Toute la question, dit l'auteur, se ramène au fond, pour le thérapeute, à l'intérêt qu'il porte à la relation. C'est d'ailleurs ce que l'auteur reproche à la psychanalyse qui n'arrive pas à penser la relation de soin comme relation. Le soin ou la relation thérapeutique est...
conséquence, il s'annule. Le nouveau possédé se met à innover. C'est Gerba. Elle est plus mieux dans la Suisse. Gerba, qui est possédé par le Hauka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice. Le garde a reçu une écharpe rouge de commandement. Et le troisième possédé se lève. C'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique.
Qui ne coule dans un agence.
La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Locotoro. Madame Locotoro, la femme du docteur. Madame Locotoro minaude et reçoit une robe de femme. Le caporal de garde continue ses saluts empressés. Et la locomotive fait l'aller-retour entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. D'autres possédés sont en train de venir.
Si bien voici le lieutenant Malia, le lieutenant de la mer. Ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait pour le désir, je dirais c'est les yeux se révulsent.
À côté, c'est le gouverneur qui est en train de venir.
Oui, voilà. Voilà une chose bien effrayante que cette décorporation.
Le lieutenant appelle à l'aide.
Peut-être cela dit, en passant, l'effroi se distinguerait-il de l'angoisse?
Mais c'est le caporal
de garde. Tout son pathos pesant de l'authenticité et de la présence pleine, qui se dissout par sa capacité d'ouvrir, sa capacité d'œuvrer.
Le gouverneur est debout.
D'opérer des frayages.
Il parle français, il insulte tout le monde.
Froideur, effroi, frayage.
Il appelle son lieutenant et son
voyage,
lieutenant
lui fait passage.
Signe, lui dit, je t'entends, mais je suis
communauté toujours à venir. Le cru et le chaud.
Et le lieutenant vient saluer son gouverneur.
Les psys, ce sont des gens très angoissés. Ils vivent dans une sorte d'angoisse due à leur logophilie. Ils se sentent obligés de toujours savoir comment caser l'événement dans une architecture théorique sur la psyché, le cerveau, des modélisations cognitives, les systèmes, etc. Et c'est les psychanalystes qui ont été en particulier, historiquement, vecteurs d'angoisse chez les gens du métier psy, tant ils se méfient de la relation au prétexte de permettre au sujet, au majuscule, d'accéder à la vérité de son expérience. De lors, rien d'étonnant que l'on finisse par mettre au placard la question de voix, les gestes du corps et les lieux qu'ils occupent. Par exemple, il est pour un psy, du plus haut mauvais goût, de se servir de l'enthousiasme alors qu'il est un vecteur crucial de la thérapeutique. Car il a quelque chose à voir avec la possession d'enthousiasme, et ce n'est pas un truc très psy. Et pourtant, si le thérapeute n'est pas un peu possédé, ça risque d'aller mal pour tout le monde. Je suis certain que mon accent faussement espagnol, car ma langue maternelle est le catalan, est important dans ma relation aux patients. Donc du coup, j'ai demandé à un ami, Patrick Fontana, avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs occasions, en particulier autour d'un travail de composition et d'enregistrement de voix dans des petits collectifs d'usagers, dans des institutions de soins, s'il voulait bien tenir les micros et me tenir compagnie. Je pense qu'il y a une question importante d'abord, si l'on commence par l'affaire de la thérapeutique chez les psys, et c'est, au sens le plus ordinaire, le fait de sentir quelque chose, percevoir, voir, éprouver cette vision. Par exemple, un ex-travailleur immigré, comme on dit, me débite à longueur d'entretien des descriptions très détaillées d'une voix chevrotante marquée par son accent tunisien, voûtée sur sa chaise, donc des descriptions interminables de ses douleurs articulaires, musculaires, indéfinissables. Et tous les méandres des consultations qu'il ne cesse de faire depuis 10 ans, infatigables. Un véritable emploi du temps, médecin généraliste, neurologue, psychiatre, psychologue, kiné, ostéopathe, naturopathe, pharmacien, et encore des neurologues et des psychiatres. Son RSA est un bien maigre salaire pour cette mobilisation permanente, et les diagnostics qui lui ont été attribués, et les traitements qu'il connaît en expert, médicaments antidouleurs, psychotropes de toutes sortes, séances chez les kinés, etc. donc un ex-travailleur immigré, dans une chambre perchée au 15e étage d'un foyer d'Omain, aux façades lépreuses. Je vois depuis sa fenêtre les panoramas de cette partie de la banlieue du 93. Peut-être les derniers vestiges du bois de Romainville qui jadis entremêlés à des lopins de maraîchage et aux murs à pêche. Mais cette fenêtre ouvre aussi vers les paysages caillouteux du sud de la Tunisie. Je ne suis jamais allé en Tunisie, mais ces derniers temps, je suis devenu ami avec un jeune exilé tunisien arrivé en France dans un bateau de fortune. Lui, comme quelques autres milliers de parias, harcelé ensuite par la police, contraint de faire place nette sur la ville de Paris, contraint de vivre dans des taudis et des petits bidonvilles dans la banlieue parisienne, parfois dans des squats ouverts avec l'aide des jeunes des milieux des squatteurs. Ce jeune tunisien, l'autre, les sans-papiers, vient aussi du sud, d'un village près des Arzis. Donc nous parlons des paysages caillouteux du sud, de son village et de sa mère, de son père mort lorsqu'il était enfant et de son mariage, de son effroi, de la découverte effrayée quand, lors de la première nuit de noces, il découvrit que sa femme avait un genre indéterminé, mi-femme, mi-homme, de la longue suite des démarches médicales pour de coûteux traitements hormonaux pour sa femme en Tunisie et en Suisse, et puis son divorce, la mort de sa mère, les débuts de ses douleurs, ses consultations chez des guérisseurs en Tunisie, au Maroc, en Algérie, fin de course dans un foyer à Doma, avant on disait pour des travailleurs immigrés, aujourd'hui plutôt des chômeurs ou des retraités pauvres d'une ville de banlieue. Il a évidemment été question de djinn dans notre dialogue, mais on ne réveille pas impunément un djinn. Quand parle-t-on au djinn par des multiples médiations? L'endopsychiatrie de Toby Nathan nous a appris ça. Et c'est d'une inestimable valeur. Cesser de forcer les faits pour les faire rentrer dans les constructions ontologiques occidentées, les sujets, etc. Qu'il s'agit non pas de s'adresser à des sujets, mais à des êtres en relation, qu'on ne peut soigner que s'ils effectuent des rencontres entre des mondes hétérogènes. Donc, au bout du compte, que soigner est une question collective et que les collectifs soignent en se soignant. Dès lors, il faut en tirer les conséquences. Même dans un tête-à-tête, on met en jeu une relation collective. Le problème avec l'endopsie, aujourd'hui en plein déclin, c'est qu'elle a complètement raté l'articulation politique. Là comme chez beaucoup d'autres milieux psy d'ailleurs, l'argent, avoir un poste universitaire coûte que coûte, avoir de la notoriété ont pris les pas. On se souvient de sa triste présence dans les traits réactionnaires libres et noirs de la psychanalyse. Petite parenthèse, ça a permis en réaction de redonner des couleurs progressistes à la psychanalyse en tant qu'institution, elle qui s'est montrée dans ses rapports aux faits sociaux si foncièrement conservatrice. Il suffit de penser à ses positions sur la filiation homosexuelle, sur les métamorphoses des configurations familiales, sur les drogues, sur la cohabitation avec d'autres pratiques thérapeutiques, etc. Donc le problème de l'endopsychiatrie, c'est de ne pas avoir été plus loin dans la déconstruction, comme si pour construire, il ne fallait pas déconstruire, à commencer par les institutions inscrites dans une politique du soin, où la santé est une question de gestion des populations, une gestion politique, la politique d'intégration des individus et des milieux dans l'ordonnancement social de l'économie. Mais on y reviendra. Donc des corps se rencontrent dans un lieu, ici un bureau tristouné, dans un algéco provisoire d'un service d'insertion pour des allocataires de RSA en reconstruction. Un lieu hanté par d'autres lieux et d'autres voies, celles des médecins, des psychiatres, des guérisseurs. Un lieu est un agencement d'éléments. Le thérapeute est un de ces éléments, un élément actif dans un lieu institué. Une institution surcodée par des discours, des contraintes, des lignes de fuite aussi, peut-être. Un espace qu'il faut déconstruire pour qu'émerge une communauté éphémère entre les patients et les thérapeutes. J'appelle la constitution de cette communauté la composition d'un processus thérapeutique ou le communisme de la guérison. Donc voilà une première contrainte qui s'impose aux thérapeutes, à ses voix, leurs nuances, ses corps embarrassés peut-être, la composition des mondes qui habitent ces deux corps qui ne se retrouvent pas dans un terrain neutre. Voilà que la contrainte est forcément politique. Il faut déconstruire ces surcodages pour ouvrir un processus indéterminé de communisation. C'est dans ce sens que l'on peut dire que les faits sociaux sont faits des migrations entre deux mondes et que derrière un prolétaire, il y aura toujours un immigré, même parmi les Français de souche. En tout cas, c'est sur ça que je veux travailler en tant que thérapeute.
Parfaitement séparé. On ne peut pas traiter la Constitution comme le surmoi d'un pays parce qu'un pays n'a pas de psychisme. Et cette espèce d'application rudimentaire insensée, incohérente d'explications psychologiques et de termes psychologiques à des sujets qui n'ont pas une dimension psychologique est catastrophique, et inversement, la tentative du sociologisme, dans lequel j'inclus toutes les doctrines qui subordonnent l'homme
émotion,
au groupe ou à l'État,
à l'écoute du récit du paysage caillouteux, à l'emploi du temps.
Il s'imagine que l'homme est une marionnette. Or, l'homme n'est pas une marionnette.
Perception
la preuve
du Sisyphe.
Le dissident dans les pays
fait diagnose.
Qui insiste plus que l'homme est totalement manufacturé
perception.
Par l'ambiance.
Altéré.
Il faut
éthéré,
trouver un moyen de parler du
stance et distance
en termes psychologiques, psychiatriques,
par rapport au communisme de la guérison dont vous parlez.
Du sociologique en termes sociaux.
Énervement rétrospectif, en pensant à ma lecture à coups de marteau piquant du livre noir de la psychanalyse Reren, qui, comme vous le dites, a fortement tendance à forcer les faits pour les faire rentrer dans ces boîtes ontologiques occidentées. L'ethnopsychiatrie, donc, une certaine ethnopsychiatrie, a essayé pourtant de faire bifurquer ces boîtes, de les ouvrir. Peut-être en créa-t-elle d'autres. Notamment en ratant l'articulation politique. L'argent, le poste universitaire, la notoriété ont pris le pas, dites-vous. Il y a donc ces questions de construction, déconstruction, struction peut-être aussi. Faire se lever les singularités. Vous dites que le problème de l'ethnopsychiatrie, c'est de ne pas avoir été plus loin dans la déconstruction. Comme si pour construire, il ne fallait pas déconstruire. Je vous cite. À commencer par les institutions inscrites dans une politique du soin, la santé comme gestion des populations, une gestion politique. La politique d'intégration. Dans l'ordonnancement social de l'économie. Donc voilà une première contrainte qui s'impose au thérapeute, à ses voix, leurs nuances, ses corps embarrassés, la composition des mondes qui habitent ces deux corps qui ne se retrouvent pas dans un terrain neutre. Donc la contrainte est fortement politique. Il faut déconstruire ces surcodages pour ouvrir un processus indéterminé de communisation. C'est dans ce sens que l'on peut dire que les faits sociaux sont faits de migration entre des mondes. Le terrain n'est pas neutre, donc, loin de là. J'aime beaucoup votre usage du mot « contrainte » dans votre réponse. Cette « res pondere », se promettre à nouveau. Contrainte qui ne sonne pas comme le vocable « limite » et sa ritournelle triste et affadissante. Cette minoration autoritaire de la puissance. Contrainte politique donc. Dans un champ, par un champ de force formé, formaté, un certain réel, la politique du capital, l'économie, avec majuscule, comme l'utilise Bernard Raspe dans ce très beau, dans son très bel ouvrage récent, Les mots et les actes. Ce champ, cette chape, ce camp, diraient certains. Comment bien en parler sans en faire une unidimensionnalité sur laquelle nous, un nous à N-1 peut-être, un peuple contre un autre, n'aurait pas de prise. Faire localité incapacitante et soignante, ne pas dissocier politique et thérapeutique. Faire prise, toujours en situation, toujours en rapport avec de l'hétérogène et avec l'immonde homogénéisant de l'économie et sa politique d'atrophie du réel. affirmer le négatif, dites-vous, de nouvelles destructions qui permettraient donc de souffler, de respirer, de construire, de conspirer. Le ciel infini, mais tout entier, dans la flaque brève, à même la jungle normopathe, car nous y sommes. Vous parlez d'un constructivisme de combat. Constructivisme de combat, formule frappante, voire cinglante, où l'on sent bien poindre une lutte contre, disons...
Vous disiez donc que la thérapeutique n'est rien d'autre que relation. Chic. Je disais que le petit secret angoissant du thérapeute, c'est qu'il ne sait faire que ce que la relation lui fait faire. Et qu'au fond, n'importe qui est un thérapeute, pour peu que quelque chose de l'ordre de la communauté soit activé, recouvre la rencontre. Donc, pour qu'il se passe quelque chose avec un thérapeute, il faut bien qu'il se risque à faire partie d'une communauté, même éphémère, même dans un tête-à-tête éploré. Entendons-nous, c'est la communisation de l'expérience qui guérit, ou quelque chose qu'on pourra appeler l'événement transindividuel dans le registre de l'expérience. Bien sûr, je parle de chez nous, de nos contrées sans Dieu, ou qui n'ont que des divinités qui ont migré avec des humains immigrés, les uns et les autres disqualifiés, des humains et des dieux plébéiens en somme. Lorsqu'il est question des divinités ou d'êtres de la surnature, il faut que des médiations et des médiateurs spécifiques, des choses très compliquées, très particulières, très codées, mais pas figées dans une éternité archaïque qu'on veut nous faire croire les profondeurs républicains du communautarisme, des gestes donc, des paroles, des actions, des objets fabriqués qui s'agencent pour créer des lieux dans le monde des humains, des lieux habitables pour les dieux, les morts, les ancêtres, les esprits, les animaux et même les esprits des animaux. Donc des choses qui se passent entre le monde des humains et les autres mondes invisibles pour les humains. Mais ça, c'est toute une autre histoire, celle que nous a invité à explorer l'ethnopsychiatrie. Mais l'ethnopsychiatrie nous a appris aussi à rendre un peu plus étrangères nos pratiques des soins occidentés, à en déconstruire en tout cas les trop familiers, les trop connus et prévisibles. Elle n'a pas été bien sûr la seule à nous inviter à prendre appui sur les formations collectives pour faire face à la souffrance, à la maladie, la psychothérapie institutionnelle l'a aussi fait autrement. Mais j'y ai toujours trouvé quelque chose de confiné, de morbide, une obsession pour la psychose comme prétexte instituant, peut-être dû à son inébranlable référentiel lacanien, pas les grands larges deleuziens en tout cas. Ce qui importe, c'est de porter notre attention à la fabrication de ces dimensions collectives, à la fragmentation du social, comme étant indissociable du soin, même chez nous, un collectif ne se compose pas que des humains et les processus d'individuation ont lieu par hétérogénèse. Les psys sont souvent bien seuls, seuls avec eux-mêmes, seuls avec le même malgré le grand autre que certains ne cessent d'invoquer. Ce sont eux qui l'ont voulu ainsi. Et du coup, même les patients ont intégré ça, puisque les malades sont fabriqués par les dispositifs, en tout cas dans le monde de la culture bourgeoise et des classes moyennes. C'est bien autre chose chez les prolétaires et les immigrés. Donc il faut se débrouiller autrement. Comment faire collectif à deux? Et du coup, je pense à un monsieur que j'accueille depuis un temps, avec qui je m'entretiens dans le cadre d'un dispositif d'accueil pour des allocataires du RSA. Quelques mots préalables. Depuis un temps, un de mes boulots se passe dans ce que l'on appelle un projet ville, c'est-à-dire un lieu où se mettent en place des projets d'insertion pour des personnes précarisées, privés d'emploi, comme ils disent, ou les fuyant comme la peste, ça on le dit moins, ou juste comme une insulte, des assistés, des parasites, des profiteurs du système, etc. Bref, des allocataires du RSA. Et on leur propose un accompagnement socio-professionnel contractualisé, un engagement réciproque, comme on dit maintenant.
Change leur métier, qui était conseiller, qui est maintenant fliqué, le désordre ment. Ah, le beau Pôle emploi, qu'on voit dans ce bordel, quand politique se mêle de faire n'importe quoi. Et puis de temps en temps,
la logique des droits et des devoirs. Le droit à toucher un revenu de survie qui contraint au devoir de s'activer, de trouver sa bien, de se faire exploiter un jour, de vendre sa force de travail plus tard, de mettre en valeur son capital humain et ses compétences en attendant, etc. Bref, le devoir de se socialiser par le travail, nanani nanana, les travailleurs rendent libres, etc. Donc, elle est motivée pour se maintenir active. RSA, ça veut dire revenu de solidarité active. Donc, tout le monde est censé s'activer, les travailleurs sociaux, les allocataires, etc. Je ne m'étendrai pas ici sur ces dispositifs de contrôle, car il faut aussi savoir qu'on est susceptible à tout moment d'une sanction si on ne s'active pas assez. Juste en dire quelque chose sur les changements de paradigme qu'il traduit, entre les paradigmes de la réinsertion, propre à l'ancien régime de subjectivation promu par l'État social en déclin, avant on disait RMI, revenu minimum d'insertion, plutôt sur les versants de la réparation et de la réaffiliation sociale, pour le dire vite, selon le modèle d'une politique de la souffrance qui supposait de savoir entendre la plainte, puis de faire émerger une demande, puis d'œuvrer sur ces bonnes bases doloristes à une réinsertion sociale. Et puis, il y a les nouveaux paradigmes de l'actuelle activation, plutôt guidés par une rhétorique implicationniste, guidés par une logique entrepreneuriale et des discours sur la motivation, le projet de vie, un travail sur le réapprentissage des compétences au service du marché, donc l'employabilité, etc. Et tout ça avec moult ateliers pour stimuler l'estime de soi, l'invention des modalités de présentation de soi dans les différentes scènes de l'entreprise monde, bref, tout un travail sur soi pour apprendre à tirer profit, malgré tout, de l'ordre inégalitaire capitaliste, de l'exploitation du travail ou simplement du temps de la vie et de nos sensibilités et affections. Je vous rassure, cette usine à gaz ne marche pas, ça se fissure de partout, ça fuit, ça coince. Mais on peut vraiment parler ici, comme le disaient les précaires de Rennes lors de la grève des chômeurs, d'un travail social en tant que c'est ce qui est exigé en échange d'un salaire socialisé de survie, le revenu des allocations. Et si on n'y arrive pas, il y aura peut-être un psy dans le coin. Donc du coup, j'en reviens à ces messieurs. Des lieux d'insertion comme ça accueillent donc aussi, de temps en temps, des gens qui ne vont pas bien. Mais alors, pas bien du tout, pas activable du tout. Donc, on les oriente vers un psychologue, en l'occurrence, moi. Monsieur K, cela fait 46 ans qu'il ne travaille pas, qu'il est complètement désactivé, complètement débranché. Je veux dire qu'il a 46 ans, il présente une inhibition sociale massive. Il vit dans le cocon d'une famille juive séfarade avec un autre frère et sa mère. Son père est décédé il y a quelques années, ainsi que deux chiens qu'il aimait beaucoup. Pour Monsieur K, sortir de la maison pour rencontrer quelqu'un est une aventure. Disons que c'est la panique. En général, ça présage d'un très mauvais moment à passer pour lui. Donc la première fois qu'il vient me voir, sous les conseils pressants de sa conseillère d'insertion, il transpire. Il se tient tout raide sur sa chaise en face de moi. Au passage, je déteste ce bureau où j'ai fait les entretiens. Être ainsi assis dans un face-à-face avec les patients, avec une table plastifiée s'interposant entre ceux que j'accueille et moi, et une affiche remerciant les fonds sociaux européens de financer ce dispositif, et l'ordinateur qui trône à gauche de la table. En général, partout où je travaille, j'essaye d'avoir 3 ou 4 fauteuils bas, même des récup, avec une petite table basse au milieu, où l'on peut jouer sur des dispositions de corps pas forcément frontales, et avec des places vides à côté qui sont aussi les places pour ceux qui ne sont pas là physiquement, mais qui y sont tout de même comme des fantômes parfois bienveillants, parfois menaçants. Donc c'est face à face avec M. K, angoissé, des gouttelettes de sueur sur la commissure supérieure de sa lèvre, s'épongeant discrètement le front, sérieux, appliqué dans son propos, le regard qui dévie vers la fenêtre de temps en temps, et qui répond à mes questions avec une délicate courtoisie. J'apprends qu'il a suivi une psychothérapie pendant 12 ans dans les centres médico-psychologiques du coin. Il a toujours vécu dans la même ville, donc il a pu se rendre sans difficulté pendant 12 ans dans les CMP de la ville, une fois par semaine, pour rencontrer une psychothérapeute d'orientation psychanalytique, qu'il est pris dans un trouble paroxystique chaque fois qu'il croit devoir se confronter au regard que d'autres vont porter sur lui. Donc ses relations à autrui se résument à cette interrogation muette et angoissée sur ce que les autres peuvent penser de lui. Pas d'entre deux, donc. Ou alors, trop, mais d'un trop plein d'une espèce particulière. Les entretiens, qui ne manquent jamais, se suivent et se ressemblent. Je m'ennuie sans que ça n'entame en rien la sympathie que je lui porte. Avec une collègue, on l'a persuadé tout de même de s'inscrire dans un atelier informatique où il peut garder son regard rivé sur l'écran de l'ordinateur et où les échanges avec les autres sont très minimes. Un jour, lors d'un entretien, j'essaye quelque chose. Je lui dis que s'il a peur de ce que les autres pensent de lui, c'est qu'il ne s'autorise pas à prolonger sa pensée sur les autres. Donc je lui dis que oui, évidemment, je pense des choses de lui, mais que je me doute bien qu'il doit aussi penser quelque chose à mon sujet. Je lui demande d'essayer de penser à moi, d'essayer de me dire un peu ce qu'il pense de moi. Certes, je suis un psychologue, mais un psychologue est quelqu'un qui a des choses dans la tête, autres que celles qui se rapportent à une pensée des psychologues sur son patient. Bref, une vie de non-psychologue. Donc que je viens de quelque part, que je ne suis pas né psychologue dans ce bureau. Tout comme lui, il a dû remarquer par mon accent que je ne suis pas français, que je viens d'ailleurs. Et je l'invite à parler de cet ailleurs avec lui, du mien et du sien. Nous en sommes là. Il a très bien compris mon propos, on s'ennuie moins, on verra par la suite. Il y a un déplacement. Peut-être ce que Lawrence Stern appelle la ligne serpentine des émotions, caprice et sinuosité de la fantaisie qui permet l'exploration du sensorium du monde, les visibles et l'audible, soudain mis à jour. On est là, les deux, veillant sur quelque chose qui est notre dehors à nous deux, car il se constitue entre nous deux. Je ne saurais pas par où commencer ni comment finir si je m'embarque dans des descriptions comme celle-là. Je veux dire que je pourrais devenir intarissable. Cela pourrait devenir très instable. Je ne parle donc pas d'un principe ni d'une sagesse qui serait indicible, acquise par je ne sais quel dossier d'analyse didactique, par les simples vieillissements. Juste du constat qu'on est pris dans les flux, et parfois dans des flots, ou encore dans les grands vides d'une vie partageable, et que c'est heureux qu'il en soit ainsi quand on est un thérapeute. Mais alors on cesse presque de l'être, et c'est tant mieux. Il faudra bien un jour en finir avec les psys.
Il est bien plus vaste que...
Et un best-seller avec ce titre qui s'effondrait dans les gares. L'exergue pourrait être ce que fait dire Lawrence Stern au pasteur Yorick. Le flux et reflux des humeurs peuvent, autant que je sache, dépendre des mêmes causes qui président les marées. Je suis sûr du moins pour ma part que dans bien des cas, je serais beaucoup plus satisfait que le monde dit de moi que j'avais eu une affaire avec la lune dans laquelle il n'y avait ni péché ni déshonneur, que de voir imputer à mon propre mouvement un acte où il y aurait de l'un et de l'autre en quantité. La lune, décidément, est un être moins piégeant que l'introspection analytique, et l'on peut veiller ensemble aux joies de son céleste parcours. Le métier du thérapeute, tout ce qui a lieu et qui importe se passe dans cet entre-deux, entre les psys et son patient, pas tout à fait chez les patients, ni même chez les thérapeutes, mais dans l'espace de la relation. Le précepte constructiviste qui dit que les termes ne font pas la relation, mais que c'est la relation qui fait les termes, qui à leur tour la constitue en tant que relation, est essentiel. Je ne vois pas comment envisager autrement les choses. La relation est le dehors de ces termes. Tout ça s'applique parfaitement aux gestes thérapeutiques. On pourrait parler alors de relation transindividuelle, relation de relation. Ce qui vient en supplément à l'être au monde, ce qui fait monde, des milieux. Cet espace de la relation est peuplé d'une multitude de choses et d'êtres, on l'a déjà dit, un espace de coalescence. Mais cet espace intercalaire est aussi celui qui se situe entre le dispositif et son dehors. Il y a une tension aussi, entre le monde d'ici où s'inscrit le dispositif, le cadre de la rencontre, c'est-à-dire l'institution, et les autres mondes transportés par les patients et ceux qui habitent les thérapeutes, y compris ces théories, en sachant que des théories, tout le monde en a, et bien sûr aussi les patients, même si ça ne les soulage pas beaucoup. On y reviendra. On est alors en plein dans une question politique, les dispositifs, et ce par quoi passe la politique, par où pointe la tension de l'antagonisme. Parce que la politique est expérimentation, création, du côté de la politique du capital, tout comme du côté de la politique qui lui est antagoniste, mais parce que la politique étant aussi justement antagonisme, réactivation de la division, c'est par les dispositifs que la division s'instaure ou se combat. Donc, les dispositifs institutionnels sont là pour diviser. À commencer, les objets de ces sujets, et les sujets entre eux, soignants et soignés, ceux qui savent et ceux qui apprennent, ceux qui représentent et ceux qui sont représentés, ceux qui gèrent et ceux qui sont gérés, etc., etc. En dernier terme, entre ceux qui militent pour les milieux intégratifs de l'économie et les communistes qui le combattent. Mais on reviendra sur ces derniers points. Probablement, lorsqu'un psy s'obstine à singer la neutralité, il ne se passe pas grand-chose. On s'ennuie, où on essaye de vérifier une théorie et on perd en route ce que peut devenir la relation et les devenirs autres auxquels ouvre cette relation, les relations de relations qui font un monde. Cette prétention à la neutralité, ou ce manque d'engagement dans une situation, est certainement le pire des pouvoirs que l'on peut exercer dans la scène thérapeutique. Isabelle Stengers et Toby Nathan expliquent ça très bien. Si je n'appartiens pas à la situation que j'ai créée de toutes pièces, je peux prétendre non être que le bon interprète. Isabelle Stengers se demande dans un texte « Qui ne nous dit pas que la pire suggestion est celle de prétendre ne rien suggérer ?» Ce qui ne peut que venir confirmer une quelconque théorie du psy et finalement naturaliser ce qui n'est qu'une construction théorico-pratique, l'inconscient, la résistance du patient, le refoulement, le transfert, etc. La théorie du transfert est particulièrement dégueulasse. Je ne suis en tant que psy que le symptôme de mon patient, lequel ne fait que reproduire dans la scène analytique la vie réelle. La théorie du transfert instaure la scène thérapeutique en non-lieu, en un méta-lieu pour ainsi dire. Le psy n'est alors que le témoin modeste d'un processus, comme dit Donna Haraway. Dire n'importe quoi, ce n'est pas grave si on en assume les conséquences, si on en assume les risques. Mais ne pas être engagé par ce que l'on dit est une entourloupe propre au psy. Elle a bien assez trop duré. Un psy qui s'obstine à singer un psy n'est pas seulement pénible, mais souvent assez méchant. Il y en a même qui lisent Don Quichotte de la Manche en pensant à la métapsychologie freudienne et des fanatiques d'une lecture herméneutique lacanienne de l'idiot de Dostoïevski. Même la baleine blanche de Melville peut y passer. C'est de la pure mesquinerie.
Le monde de l'image est beaucoup plus vaste que le monde du langage. Même si le monde du langage est bien plus efficace. En étant plus efficace.
Comment rendre possible une rencontre alors qu'elle est déjà surdéterminée par tout un tas de choses? Les cadres institutionnels, les pratiques, les discours, comme autant des dispositifs de savoir-pouvoir, les assignations, la réduction de la différence à la division. On n'a pas le droit d'oublier que ces institutions sont les courroies de transmission du pouvoir de l'État en tant que gestionnaire des populations, en tant que grand intégrateur des individus, en tant que régulateur des déviants, des anormaux, des anomiques, des inadaptés, des étranges, des étrangers. Même s'il y parvient de moins en moins, pour tout un tas de raisons que je tente d'élucider un peu dans mon livre. Donc pour construire des rencontres, il faut déconstruire ces procédures d'intégration et de fabrication d'identité. Le soin est aussi une question politique. On devra dire alors, encore, qu'une institution soigne en se soignant.
La séparation est revenue au cœur de l'affrontement politique. Certes, le pouvoir soutient les technologies de régulation de la population qui prétendent constituer un espace intégratif pour chacun dans la totalisation du social. À chacun un projet de vie dans l'éthos libéral. Les polices du soin et du social sont là pour y veiller. Mais en dernier recours, il restera toujours la relégation surveillée, la basse police et les vieilles recettes disciplinaires renouvelées par les inventions high-tech du contrôle lorsque les processus d'intégration sont mis en échec. Le maillage de dispositifs d'intégration ne saurait nous faire oublier cette évidence que le non-lieu de l'économie est un espace de réactivation permanente des divisions, de la subordination et de l'inégalité. Et qu'il suscite des résistances, de la défection. La politique est l'amplification et la mise en résonance de celle-ci en vue d'un affrontement. Foucault, Deleuze et Guattari nous avaient permis de penser une politique sans sujet politique, sans téléologie, sans avant-garde messianique. Mais la politique n'en reste pas moins marquée par la séparation. Elle se déploie en tant que politique du négatif. Il y a toujours un peuple contre un autre, comme le rappelle Jacques Rancière dans sa critique du concept de multitude et d'un sujet politique immanent à l'économie. Le peuple émerge dans des scènes singulières d'interlocution, dans des nouveaux régimes du sensible. Il s'agit alors d'autant de modes de positivité de la politique, de modes de subjectivation productive, et non pas d'affirmation d'un sujet de la politique. Mais c'est aussi d'une négativité de la politique qu'il est question dans la réactivation de l'égalité, qui délégitime le pouvoir de représentation, qui en anéantit l'effectivité. Les processus de désidentification aux catégories policières du gouvernement traduisent à la fois la positivité d'une invention de la politique et la négativité d'un affrontement. Il y a donc à penser la positivité de la politique, ce qu'Isabelle Stengers appelle la mise en œuvre des conditions de production d'égalité. La fabrication de dispositifs n'est pas une affaire de prise de conscience, un sujet réflexif, mais de création, à partir de la rencontre entre des hétérogènes, de nouveaux modes d'existence de la différence. Mais il y a aussi à décider d'une politique qui ne renonce pas à la négation du pouvoir de gouverner, à la lutte contre les divisions, comme d'une déambulation dans le peuple fragmentaire. La thérapeutique se situe dans une logique de fragments. Dans ces lieux fragmentaires, on entend les voix du peuple. De la thérapeutique, en paraphrasant Deleuze à propos de la littérature de Kafka, on pourrait dire qu'elle est l'affaire du peuple. Des récits mineurs où toute histoire privée devient publique, politique. Affaire du peuple et non d'individus exceptionnels. La thérapeutique est la construction de récits ordinaires de vie, le recueil de voix fragmentaires qui s'étaient taries dans les noms de la santé.
Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent, l'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant de par la loi humaine. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum faux, musique puérile. Et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice. J'ai un jugement sain et arrêté. Je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif. Ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sous les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait. Le diable est au clocher. Cette Marie Sainte Vierge. Horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien? Venez, j'ai une oreille sur la bouche. Elles ne m'entendent pas. Ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu. Plus de foi en l'histoire, l'oubli des principes, je m'enterrais. Les poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares. Comme la mer. Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse, l'enfer est certainement en bas. Et le ciel en haut, extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Que de malice dans la tension, dans la campagne. Satan, Ferdinand, court avec les graines sauvages. Jésus marche sur les ronces purpurines, sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et détresse brune. Au flanc d'une vague d'émeraude. D'une vague d'émeraude. Je vais dévoiler tous les mystères, mystères religieux ou naturels. Mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez,
J'ai tous les talents. Il n'y a personne ici, il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants maigres, des danses de houris? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau? Veut-on, je ferai de l'or, des remèdes. Fuyez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. Tous, venez, même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux, pauvres hommes, travailleurs. Je ne demande pas de prière, avec votre confiance seulement.
Hier, j'ai eu l'opportunité d'assister à un séminaire de l'ESBL Entre deux mondes, intitulé Théâtre et Thérapie, avec Farid, metteur en scène de la troupe du possible. Avec joie, il s'est avéré que celui-ci n'était ni metteur en scène, ni thérapeute. En tout cas, pas directement, si l'on peut dire. Ou les deux à la fois. Ce qui fait s'effondrer les clivages. En tout cas, il ne s'agissait pas de faire du spectacle à faire, une téléologie vers laquelle tous les êtres tendraient. Il ne s'agissait pas non plus de guérir des personnes en détresse psychique par le théâtre, comme cela se pratique par ailleurs, avec les pentes commerciales malodorantes que l'on connaît. Nous nous amusons simplement, dit-il. Et parfois cela débouche sur une pièce de théâtre. La dernière en date était en l'occurrence une virulente tragicomédie vilipendant le DSM. Suite à une introduction de Olivier Rallet qui fit sentir ce que peut vouloir dire le « entre » de « entre deux mondes » par la pensée de Toby Nathan et de Latour notamment, ces premières bifurcations par rapport à l'orthodoxie de la philosophie des sciences modernistes, la dite épistémologie, ces voyages dans et par les trans soufis, etc. Farid présenta de manière très vivante ensuite ses rencontres entre cour et jardin, jardin et cour, entre, avec des dits fous, mais aussi avec des dits normaux, bien sûr. Cela me fait penser, soit dit en passant, à ces familles villageoises qui amènent leurs fous, entre guillemets, à des rituels de transe. Et c'est ainsi que les rôles s'inversent, celui-ci restant à part et cela rentrant dans le rituel. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Farid, donc, nous fit partager ses étonnements, ses apprentissages, ses heurts, leurs danses, leurs peurs, leurs rires et leurs pleurs. Une pragmatique de l'interaction, débouchant parfois sur une pièce de théâtre, qui peut être montrée à un public. Comme une coalescence partageable, avec des altérités, n'ayant participé, à proprement parler, à l'écologie de la relation. Une autre forme de communication de l'expérience, peut-être, différentielle. Comment, disons, la pluriversalisation du dit sujet, les hétérogénèses machiniques, Deleuze et Guattari furent mentionnées, peuvent en passer, opportunité, plutôt que téléologie, donc prétexte ou plutôt hors-texte, peuvent en passer par la pratique théâtrale pour éviter la psychiatrisation réductionniste, mutilante, dépeuplée, amoindrissante, d'être qualifié de psychotique ou autre, schizophrène, passer d'institution en institution, de plus en plus dur, dans un atermoiement illimité. Revenu d'un séjour à la Borde, il fut assez stupéfait de la manière dont les choses simples qu'il avançait quant à sa pratique et les propositions qu'il mettait sur la table furent presque subversives, perçues comme telles, débouchant sur Mais vous ne pouvez quand même pas. De la part des psychiatres. Il insistait sur le côté îlot du lieu thérapeutique, sur la relative immunisation que l'isolation de la borde pouvait engendrer par rapport au dehors. Ce socius malade, cette panique froide, frénétiquement normopathe. Outre tout ce que nous pouvons célébrer, évidemment, quant à cette expérimentation à la borde, avec ses incertitudes, ses conflits, ses inerties, ses merveilles, ses ouvertures, dans le champ de ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle, qui ne divise plus psychopathologie et sociopathologie, disons, pour aller vite. Pléthore de questions foisonnent dès lors quant au rapport entre soins, communauté, différence et division, politique et socius. Vous parlez d'hétérotopie, reprenant ces concepts chez Foucault, en la dotant, me semble-t-il, d'une charge plus offensive que ce dernier. Dans des lieux situés, extraterritoriaux, au social organisé, et contre celui-ci. Contre ces divisions universelles, dites-vous. Que pourrait bien vouloir dire ce contre, et surtout, en quoi fait-il faire? Qu'est-ce qu'il produit? En quoi fait-il émerger des dehors qui produisent de l'existence? De l'ec? De l'hétéro, par rapport à la totalisation qui intègre et désintègre les différences. Intègre et désintègre, peut-être dans un même mouvement. Des hétérotopies, donc, pour ouvrir l'appétence, œuvrer aux soins, faire attention à la croyance. Mais ce mot prendra un sens nouveau avec William James et les fétiches de la tour. À la croyance, voire à la volonté de croire, à des êtres non généraux, mais génériques. En situation, engagés dans la concrétude, à produire dans chaque cas des productions d'existence, hors des espaces diagrammatiques de la production du contrôle. Avec Jacques Rancière, vous faites de la politique, en l'habitant singulièrement, un antagonisme à la police, au partage policier qui justifie et entretient les inégalités, au respect des divisions aujourd'hui étatico-capitalistes, au nom de la crise qui crise et de l'urgence urgente. Il s'agirait d'une rupture avec ces divisions, un cri qui résonne et fait vaciller la diagrammatique. On est tous du même monde. Ce qui peut sembler étonnant, une rupture, et non pas la construction patiente du monde commun, médiée par une nouvelle forme de parlementarisme, etc. Il y a comme une tension. C'est ce même monde posé comme une inconditionnalité dans un mouvement soustractif qui permettrait la différence. Opposé au social comme monde 1, créant et entreprenant de brutales divisions. Mais se soustraire aux divisions ne veut pas dire toutefois, et c'est là que j'aimerais ralentir un peu, ne signifie pas se soustraire aux différences, aux moins peuplés, aux appartenances diverses, aux aventures plurielles, au nom d'un universalisme de bonne aloi, de la belle âme qui dénoncerait communément le fourvoiement de cette idée dans le monde des divisions instituées, ou qui opposerait une idée à l'absence d'idée du démocratisme nihiliste. Cette belle âme qui, librement, n'est-ce pas, appelle à un arrachement à notre aliénation.
Tous ces préambules pourront revenir à la question du pouvoir et de la politique. Actuellement, j'ai un problème, là pour le coup, un problème théorique. Je disais qu'un espace institutionnel surdétermine les rencontres qui s'y produisent, assignation des statuts, savoir comment prise subjective sur autrui, incitation à des modes de subjectivation, reproduction des positions d'asymétrie, évaluation de la plus-value virtuelle d'un individu dans le monde de l'économie, courroie de transmission du pouvoir étatique, espace de propagation des discours et des pratiques dominantes. Bref, un champ de bataille sourd, le plus souvent, paroxystique parfois, qu'on s'appête, et s'appête de plus en plus. Violence et auto-agression des usagers, suicide au travail des professionnels, en absence de tout conflit collectivisé. Il faudrait dire, malgré les analyses micrologiques du pouvoir, qu'il y a toujours une reproduction de la division sociale dans ces dispositifs. Les processus d'intégration, chacun peut et doit s'inscrire dans les régimes universels de l'économie d'une façon singulière, personnelle, en se façonnant pour s'inscrire dans ces milieux locaux de l'économie. L'assujettissement comme subjectivation productive, je veux dire la positivité créatrice des processus de subjectivité assujettie, ne font que réinstituer la division. Division des classes, bien sûr, même s'il faut considérer la pluralité nouvelle à l'intérieur de la classe antagoniste à la classe du capital. Mais division entre tout un tas de modes d'existence des êtres qui conduit à la mutilation de leurs relations, à la mutilation de l'être relationnel. On disait donc que le soin est aussi une question politique, car il s'appuie sur des espaces qui reproduisent la séparation avec des procédures nouvelles d'intégration dans l'espace homogène de l'économie. Ceci est particulièrement évident dans le travail social. Pour expliquer ça, on peut s'appuyer sur ce qui est devenu la conception de l'autonomie, maître mot aujourd'hui des politiques de gestion sociale, de la biopolitique du pouvoir. L'autonomie comme capacité de débrouille dans les milieux de l'économie. Tout un travail personnel sur ses compétences, ses capacités d'adaptation, etc. Bref, un travail de valorisation de son capital humain. Ou comment devenir soi-même une valeur d'échange dans les marchés. Du coup, tous les attachements à des mondes singuliers qui n'intéressent pas l'économie, ou qui sont incompatibles avec elle, doivent passer à la trappe. Ou de l'autre côté, du côté du désordre. Il n'y a pas seulement une manière nouvelle de reconduire la division, mais le fait que ça coïncide aussi avec une hostilité foncière à l'égard de la différence, à l'hétérogène et à l'étranger-étranger. Le capitalisme est clairement dans un devenir fasciste. La masse fusionnelle des 1000 petits projets de vie compatibles avec l'économie fonctionne avec la même logique exclusive que la masse fusionnelle identitaire du fascisme classique. C'est ça, je crois, que l'énopsychiatrie n'a pas compris. Qu'il ne suffit pas de réinstituer une place pour la différence, les minorités, l'expertise des minorisés rapportée par des notables universitaires pour lutter contre les divisions propres au règne du capitalisme qui est en passe de coloniser la biosphère. Car il y a la division des classes, bien entendu, quelles que soient les nouvelles formes de composition des classes, en tout cas la nouvelle composition de la classe antagoniste à la classe du capital, c'est le point essentiel de la politique d'aujourd'hui, et il y a les divisions entre les formes normatives de ce qu'humain veut dire et qui entraînent la destruction des agencements entre des humains singuliers, collectivement singuliers aussi, et des êtres des natures, comme disent certains, ou d'une autre nature ou de la surnature, comme disent d'autres. Il y a tout un travail délirant d'objectivation du vivant, de ces formes, des liens qui font les milieux, tout un travail de destruction ou de transformation de ces liens en indicateurs économiques, en interactions captives de leur plus-value future. Plus que jamais, le capitalisme est expropriation de la vie avant même d'être exploitation du travail vivant. Aujourd'hui, le capitalisme est en passe d'établir un marché du désastre. Le capitalisme vert comme thérapeutique des milieux dévastés, en valorisant les interactions dans les milieux singuliers. Il embauche même des managers du constructivisme pour ça. Mais il a atteint peut-être une de ses dernières limites, c'est que le désastre peut emporter les marchés avec lui. Mais le désastre ne nous dit rien de notre capacité à inventer un monde post-capitaliste. Je pense que de plus en plus de gens n'ont pas envie d'attendre le désastre, tout en restant hostiles au capitalisme et à l'État en tant que grands intégrateurs aujourd'hui en faillite. Il me faut faire un retour en arrière. La politique est l'histoire de la division. Je n'ai fait là que reprendre à d'autres une définition très sommaire de la politique, en tout cas celle que nous a léguée la tradition occidentale. Car il faut dire que ce que l'on appelle le monde de l'Occident nous a laissé un héritage sans cesse renouvelé, et pas seulement le christianisme, mais un héritage très important dont nous n'avons pas à avoir honte, la politique. La politique comme division, c'est-à-dire comme antagonisme. La politique comme réactivation de la division pour lutter contre la division. Par exemple, pour le dire vite, la division entre ceux qui ont légitimité à gouverner et ceux qui sont gouvernés et qui ne peuvent qu'être représentés par des représentants, ceux dont la parole est audible et ceux qui ne font que du bruit, la plèbe ou la voix inintelligible de la bête populaire. Rancière l'explique très bien. C'est la figure du peuple en tant qu'activation d'un tort, d'un litige dont il est ici question. Le peuple qui affirme qu'il y a toujours un peuple contre un autre peuple, celui des gouvernés contre le gouvernant. Le peuple qui s'élève contre les partitions qui distribuent les parts et les parties de la cité. Celui qui, contre ses représentants, invente de nouvelles scènes d'interlocution égalitaire, faisant surgir l'incomptable, l'irréprésentable ou l'imprésentable pour ceux qui ont légitimité à gouverner. Cette scène peut être l'insurrection populaire comme forme d'émancipation. Aujourd'hui la place Tahrir, Barcelone, en passant par Athènes, ou la rue de Wall Street. Un peuple contre un autre. Les Américains disent en toute simplicité 99% contre les 1%. On peut donc dire, dans une généalogie moderne du sujet politique, que l'institution de la figure du peuple est une forme du sujet politique divisé. Rancière parle, lui, des processus de subjectivation plutôt que des sujets. Je pense que c'est plus intéressant. Pendant la Révolution française, mais on pourrait déjà dire la même chose à des niveleurs, en Angleterre, un siècle et demi auparavant, au cours de la Révolution anglaise, dans un arrière-fond des divisions sur les motifs religieux contre l'anglicanisme dominant, du droit sectaire, du droit à l'égalité des sectes, et de là au droit à l'égalité sociale. Donc le peuple comme scène de la division, les tiers-états contre l'ancien régime, la dénaturalisation de l'ordonnancement social, puis on peut dire que l'émergence populaire insurrectionnelle a été résorbée par la bourgeoisie, puis vient la restauration, juillet 1830, les journées révolutionnaires de juin 1848, la commune plus tard, etc. Et là, entre-temps, la figure du peuple insurrectionnel sera redivisée, donnant naissance à la figure du prolétaire. Les prolétaires, comme figure irréconciliable avec la bourgeoisie, classe contre classe. Réactivation du conflit des classes comme préambule à l'abolition de toutes les classes, etc. Donc il faut ajouter dans l'histoire politique de la division de la division. La figure du peuple a été redivisée en donnant naissance à la nouvelle figure du prolétaire. Division entre les exploités et les exploiteurs. Le peuple, c'était aussi la bourgeoisie. Il a fallu activer l'antagonisme entre les bourgeois et les prolétaires pour en éjecter les premiers. Je ne peux pas ici retracer, je ne saurais pas le faire d'ailleurs, l'histoire est hétéroclite de la figure politique du prolétariat, de la classe ouvrière, qui s'est finie pour beaucoup en tant que telle dans les années 70 en Italie, dont ceux qui semblent avoir sonné les glas du mouvement révolutionnaire prolétarien. On peut parler des avatars qu'a suivi la subjectivation prolétarienne et l'émergence populaire. Comment ces figures politiques ont été intégrées dans la co-gestion étatico-capitaliste des populations. On sait comment le capitalisme a pu se recomposer face au mouvement révolutionnaire, en intégrant le conflit des classes comme moteur de son développement. Ce fut le cas exemplairement dans les années 60-70 avec la fin des mouvements révolutionnaires et les politiques keynésiennes d'intégration de la classe ouvrière dans l'économie. Ce fut le rôle des syndicats de masse et des grands partis communistes, la consommation démocratisée, le projet de promotion sociale pour tous dans le cadre du développement du marché. Mais tout ça, ça serait une autre histoire. On sait aussi comment le parlementarisme libéral, la représentation politique, les élections, etc. sont parvenus en contre-champ à l'échec monstrueux du socialisme d'État, à prétendre être l'horizon indépassable de la démocratie, neutralisant la puissance du motif populaire égalitaire. Mais la question contemporaine qui nous est posée, à nous, héritiers de la politique, notre tradition si l'on veut, n'est plus seulement celle de la division, mais bien celle de la multiplicité, ou du pluralisme, celle de la politique à l'épreuve de la multiplicité et de la différence. La division est devenue multiple, car les subjectivations et leur monde le sont aussi. Car derrière l'exploitation du travail vivant, on l'a dit, il y a l'expropriation de la vie qui est mutilation, mutilation de l'être relationnel dans des milieux singuliers. Ce que l'on peut appeler la différence comme multiplicité du vivant réclame sa part dans la politique, non pas en tant qu'elle se compose des sujets indifférents à leur milieu, mais en tant qu'elle concerne les êtres des milieux. Il faut dire aujourd'hui que le motif de la division ne suffit plus à lui seul à fonder la politique. J'ajouterai qu'il n'aurait jamais dû suffire. La multiplicité des mondes, les attachements singuliers qui constituent les communautés, les appartenances sont en eux et en elles-mêmes constitutifs de la politique, les sols sur lesquels s'incarnent les litiges, l'expérience du tort, l'antagonisme. Tout ça peut se traduire par ce qu'on appelle les luttes minoritaires, les luttes des classes subalternes, en tant qu'il y est aussi question d'appartenance culturelle et religieuse des langues minorisées. Et encore, les luttes écologistes, en tant qu'elles s'intéressent à nos rapports avec des milieux singuliers et qui nous singularisent à leur tour, peuplées d'une multiplicité d'êtres humains et non humains. Et encore, les luttes féministes qui déconstruisent la première grande division anthropologique, la division des genres, les identités sexuées. Mais ce ne sera pas suffisant si dans la politique il n'est pas question d'une résonance des politiques irréconciliées avec la politique du capital. Il y a alors quelque chose de très important. Tout ça nous oblige à reconsidérer la question de l'émancipation. Il ne s'agit pas seulement d'une émancipation des institutions de domination, de subordination et d'exploitation du travail, pas seulement une émancipation des dispositifs de contrôle en tant que dispositifs d'intégration à une population fonctionnelle à l'économie, toute une biopolitique de pouvoir, mais émancipation en tant qu'affirmation positive des liens qui nous attachent à des communautés, à des mondes, à des milieux singuliers, à des êtres humains, animaux, plantes, paysages, formations géologiques, mais aussi morts, ancêtres, divinités, etc. Concrètement, parler d'émancipation veut dire que lorsqu'on veut lutter contre les médiations marchandes, disons par exemple dans l'élevage et l'agriculture industrielle, ça suppose tenir compte des nouveaux rapports aux bêtes, aux plantes, des nouveaux attachements aux êtres de nature, mais aussi des nouvelles contraintes qu'on s'impose entre des humains, de nouvelles responsabilités et disciplines collectives que celles imposées par les salariats et le monde de la circulation de la marchandise. Et des nouveaux différents avec d'autres collectifs humains ayant d'autres rapports à la terre, aux bêtes, aux plantes et aux esprits. De ce point de vue, l'égalité n'est plus un principe abstrait, le fondement de la politique, mais un opérateur qui nous met au défi de rencontrer la différence, un opérateur de composition entre deux mondes. L'égalité est la vérification que cette rencontre est possible et que la composition pourra avoir lieu. Elle est l'épreuve de cette rencontre en tant qu'elle va modifier le monde, les individus, les termes qui se mettent en relation. L'égalité n'est pas un principe, mais l'effectuation de la politique. L'égalité est un processus où s'engagent ceux qui veulent faire l'épreuve de l'égalité et de la différence contre les divisions. Une rencontre est en ce sens une résingularisation de toutes les parties mises en jeu. Nous avons à penser, par exemple, quelle est la rencontre possible entre les assemblées populaires indiennes dans les hauts plateaux boliviens et une assemblée interprofessionnelle lors d'une grève générale en France. Dans les premières, des éléments des droits coutumiers, des ritualisations collectives autour des liens avec d'autres êtres de nature et de la surnature sont essentiels, ainsi que leur inscription dans un marxisme renouvelé. Quelles résonances peuvent exister si nous ne prenons pas au sérieux les formes de vie collective ainsi rassemblées ? Il faut passer d'une conception anthropologique de l'émancipation et de la question de l'égalité à une vision cosmologique, ou comment penser une cosmopolitique, comme dit Estengers, mais qui ne renonce pas à la part des guerres propres à la politique. La politique reste toujours l'activation de l'antagonisme. Comment pourrait-il en être autrement face à la violence du capital ? Mais elle ne peut plus échapper, à plus forte raison alors, à l'épreuve du soin apporté au monde de la différence. Les soins et la politique sont indissociables si on veut lutter efficacement contre le capitalisme, si on veut conjurer les émergences du pouvoir d'État, et si on veut oser l'extravagance de penser, d'imaginer un monde post-capitaliste. Dans un livre qu'on est en train d'écrire à plusieurs, nous en sommes arrivés à cette idée. Le capitalisme a besoin des promesses du communisme pour se régénérer et survivre à sa violence intrinsèque, endémique. Violence de l'exploitation, du régime d'inégalité qui lui est propre et plus généralement de l'expropriation du vivant qui en est le fondement, alors que le communisme n'a pas besoin de son ennemi juré, le capitalisme. Et c'est ici la bonne nouvelle, si l'on veut, qu'apporte encore le communisme, si on le dépouille de tout messianisme, de toute figure générique d'un sujet révolutionnaire serait-elle celle des multitudes, de toute invocation destinale et téléologique. Il s'agit en somme de se battre pour une politique par d'autres moyens que la guerre. Pour finir, on pourra redire alors, et si derrière un prolétaire, il y avait toujours un immigré, parfois un exilé porteur de la bonne nouvelle des rencontres improbables, celle de la pluralité des mondes, des différents lieux habités par des êtres inconnus. Pas le monde du grand autre censé conjurer le même, mais il faut alors toujours la loi majuscule qui nous a fait humains partout pareil, mais le monde autre composé de la multitude d'êtres coalescents de la différence, un monde plus riche, plus peuplé, et qui peut nous aider à faire face à la désertification du monde de l'économie, un monde en somme communiste.
Impose l'idée d'un seul monde, indispensable à l'affrontement du monde divisé par l'État. Dans le principe même de la souveraineté citoyenne, se loge la division. Ainsi en va-t-il dans l'institution d'un « nous » qui détermine les autres, comme catégorie issue d'un rapport d'exclusion au « nous » de la souveraineté nationale. Les autres, ce sont ceux qui sont exclus du droit à l'appartenance à la « communauté citoyenne ». Entre guillemets. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, disait le célèbre énoncé fasciste humanitaire de la gouvernance social-démocrate. Il s'agit là d'une confiscation du nous singulier, celui fragmenté de la multiplicité, au nom d'un nous de masse. Il s'agit d'énoncer par là un nous dont la seule propriété est la séparation qui justifie le pouvoir de gouverner. Mais ce « nous », c'est eux, le « nous » de ceux qui affirment nous représenter. Nous parlons en votre nom. Et ce nom est la confiscation du nom du peuple des différences. La persistance du pouvoir de gouverner se fonde sur la souveraineté d'un peuple constitué dans des opérations d'exclusion des différences. Ce pouvoir, le pouvoir de représentation, n'est autre que le leur. L'affirmer politiquement, c'est dire « nous sommes tous du même monde politique ». Au nom de la gestion d'une population souveraine qui ne peut exister que dans les opérations de division, c'est l'insidieuse fable perverse de la représentation politique qui nous est imposée. Tout geste de confrontation politique étant alors représenté comme une crise ou comme un désordre.
Qu'est-ce que le monde que le communisme convoque aujourd'hui? Peut-être c'est que dit Jean-Claude Martin, la fin du monde ou la fin du monde 1. J'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu personnel, au risque d'être un peu confus. Il y a peu, une très chère amie à ma femme et à moi s'est suicidée. Elle n'allait pas bien déjà depuis un bout de temps. Elle prenait des neuroleptiques depuis déjà bien trop longtemps. Elle ne répondait plus à nos lettres ni à nos appels depuis quelques mois. La dernière fois que nous l'avions vue, elle semblait engoncée dans ce que la neuropsychiatrie appelle la kinésie, une sorte de ralentissement moteur et de retrait relationnel. Elle avait aussi cette expression figée du visage et la fixité du regard mélancolique de nombreuses personnes neuroleptisées. Tout ça l'aidait un peu aussi à jouer la comédie du « je ne sens plus grand-chose, je ne suis plus là ». Ça nous agaçait un peu, ma femme et à moi, car elle avait toujours été une boule de sensibilité, des questions irrésolues, des tristesses mais aussi des joies souvent douces et loquaces. Elle faisait des recherches en sociologie sur la fabrication des paysages dits naturels par les humains. Sans être botaniste, elle avait un savoir remarquable sur les plantes. C'était une femme au coup de tête imprévisible, soudainement elle lâchait tout, elle partait et par exemple pendant un an elle travaillait comme journalière dans une exploitation agricole, lasse de l'écriture. Elle était du nord, près de Lille. Elle avait déjà fait de nombreuses tentatives de suicide dans le passé avec des médicaments. les genres de trucs qui finit par énerver tout le monde. Mais cette fois, après avoir quitté son dernier compagnon, elle est partie de chez ses parents, où elle avait trouvé refuge depuis quelques semaines, en disant qu'elle allait acheter des cigarettes et elle n'est jamais revenue. Elle est en effet allée au tabac du coin, de l'autre côté de la voie ferrée, qui passe derrière la maison de ses vieux parents. Au retour, elle a garé la voiture, a marché sur le voie, a attendu l'arrivée d'un train, s'est allongée sur le voie, au dernier moment, et regardant fixement les yeux du conducteur de la locomotive, c'est lui-même qui racontera et fondrait ce détail à la police, s'est laissé écraser par le convoi. Nous avons été bouleversés. Si je raconte tous ces détails, c'est que ça a son importance. J'avais relu, il y avait quelques semaines, un texte d'Isabelle Stengers que j'aime beaucoup. Je l'ai lu encore à nouveau après les suicides de notre ami Laurence. Ce texte s'intitule « William James, une éthique de la pensée, sous les modes du questionnement ». Il y a plein de questions importantes dans ce texte. Il y a question du choix, et aussi de ce que nous faisons face à ceux qui sont dans l'impossibilité de choisir ou qui choisissent la mort comme non-choix de la vie, ceux qui pensent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Trop de douleurs, trop de tristesse, trop de fatigue simplement, ou trop de moi envahissant le monde, etc. 10 000 raisons de ne plus vouloir choisir la vie. Je ne m'étendrai pas sur ces textes, je voudrais juste dire qu'il m'a aidé à penser des choses, à y voir plus clair. Penser devant, dit Isabelle Stengers, devant les suicidés par exemple. Alors, face à la question du choix, je pense qu'on pourrait dire « Il y a le choix du choix. L'être se détermine par les choix du choix. Le choix comme liberté, comme autodétermination. Affirmation de l'être. Ce serait comme choisir l'être, en majuscule évidemment, en tant que l'être et les choix du choix. Choisir l'être dans le monde. Mais c'est alors un monde qui risque de ne pas nous appeler. Un monde où, par exemple, les dieux des croyants risquent de ne pas nous appeler. C'est le problème de rapport entre la grâce et la liberté. Donc on a dit le choix du choix comme l'affirmation de l'être. Et puis, on peut dire qu'il y a le choix du monde dans lequel on peut être. Là, du coup, un être en minuscule, un être qui se conjugue, qui a à avoir avec un mode d'existence dans un monde qui fait monde avec d'autres êtres. Ce n'est plus un être substantif. C'est certainement ce qu'il faut entendre par communisme aujourd'hui. Le commun des êtres qui choisissent de s'engager à être dans des mondes. Monde pluriel puisqu'on est dans le registre des modes d'existence. Si les êtres ont leur monde dans lequel ils sont, on ne peut dire l'être que singulièrement comme un mode d'existence. Au passage, sur la question du rapport de ceux qui, un croyant, comme moi par exemple, côtoient les dieux des croyants, on est dans une autre position. Je lis ici Stengers, elle le dit mieux que je ne saurais le faire lorsqu'elle parle du sceau jamaïcien qui implique la croyance, par exemple dans l'invocation de l'invisible. Le sceau ne se fait pas vers un monde qui recueillerait et justifierait. Ce qui, invisible, est susceptible de venir à la rencontre de ce sceau, a peut-être même besoin d'être appelé par lui. Sauter demande une fidélité envers notre monde placé entre barbarie et liberté. Ici, Stenger cite James. Et Dieu lui-même, en somme, peut puiser dans notre fidélité une véritable force vitale, un accroissement de son être. Et enfin, il y a les choix, on pourrait dire du non-choix, les choix de ne plus choisir à être dans le monde, les choix de refuser l'être et le monde à être, les choix de mourir, de quitter ce monde, pour aller vers d'autres mondes. C'est un choix métaphysique dans toute sa radicalité. Stop. C'est un choix métaphysique dans toute sa radicalité. Et sans doute il n'aurait au fond la moindre conséquence si ça ne nous faisait pas sentir à nous, ceux qui choisissons à être dans des mondes virtuellement partageables, la nécessité de faire monde pour les morts. Il y a pour nous qui pouvons raconter une histoire de plus, une histoire qui se déroule dans le monde, qui contribue à tisser ce monde, à nouveau le choix à être dans un monde où même les morts puissent être, pour choisir notre devenir mort aussi. Il y a un devenir du mort, pour ainsi dire, qui est aussi notre devenir mort, comme le devenir vivant du mort, on pourrait dire, symétriquement. Alors, il y a les mondes des rêves, par exemple, dans notre monde, des messages d'outre-monde. Laurence était une très proche amie de ma femme. Ma femme ne pouvait pas s'empêcher d'être presque fâchée avec Laurence après son suicide. Elle sentait ça comme un dernier coup de tête, comme un mauvais coup. C'est comme si elle nous disait en guise de dernier message : « Je ne vous laisserai même pas m'aimer puisque je suis si cruelle. La preuve en est que je me suis fait déchiqueter par un train en regardant droit dans les yeux l'anonyme conducteur de la machine. Quelques jours après la mort de Laurence, je rêvais que j'avais oublié une serviette avec des manuscrits dans les caveaux où Laurence devait être ensevelie, et que ces manuscrits allaient être perdus lors de l'inhumation. J'accourais donc vers les caveaux, me précipitais dans les fonds et remarquais avec angoisse que les cercueils où se trouvait Laurence étaient celui d'un enfant. Et je me souvenais alors avec horreur que le corps de Laurence avait été morcelé par les trains. J'observais avec angoisse que le couvercle ne parvenait pas à bien se fermer. Je voyais la serviette contenant mes documents à côté, mais je savais qu'avant tout, il me fallait refermer les couvercles du cercueil, pousser les couvercles de toutes mes forces pour les refermer et l'attacher avec des grosses cordes. Mes filles étaient là. Je ne voulais pas qu'elles voient les corps en morceaux amoncelés dans les cercueils. Je me réveillais terrifié. Quelques semaines plus tard, ma femme, qui est croyante, faisait deux jours de suite à peu près les mêmes rêves, en substance. Elle s'est retrouvée avec Laurence dans une gare, et celle-ci, avec beaucoup de douceur, lui parlait, la persuadait de la laisser se suicider. Elle retrouvait l'ancienne expression juvénile du visage de Laurence, la dureté de son expression de ces dernières années était disparue. Et ma femme laissait partir Laurence vers les suicides et le cœur apaisé, convaincue que Laurence avait choisi ce qu'elle voulait réellement choisir, ne plus être dans ce monde, mais peut-être dans un autre monde avec des liens invisibles avec notre monde. Il ne s'agit pas d'une rédemption du suicidé, d'acheter sa faute, ni de les sauver, ni de s'inventer un monde invisible fourre-tout où l'on pourrait y caser même les suicidés qui nous fâchent ou nous attristent. Leurs rêves sont donc une opportunité pour loger des êtres, pour faire une place aux morts dans notre monde, par exemple, et même pour ces morts qui ont choisi de ne plus choisir à être dans le monde. Je ne parle donc pas de faire les deuils et tout ça. Ces histoires de faire les deuils, ce sont des stupidités, nous disait Toby Nathan. Aller faire les deuils d'un enfant mort, ça n'existe pas. Et puis en plus, en allant chercher l'ambivalence derrière cette affaire de tristesse, la mélancolie qui prend la place du deuil, le deuil pathologique, comme ils disent, etc. Aller chercher des histoires de narcissisme primaire et secondaire derrière la mélancolie. C'est encore des machins des psychanalystes qui ne respectent même pas les morts, qui ne savent absolument pas quoi faire des morts. On ne fait pas les deuils, on a affaire avec les morts dans notre monde. Je crois que nous sommes alors dans une question strictement politique, où l'on glisse vers la cosmopolitique. Où donc, dans nos contrées, faisons-nous vivre les morts? Dans le monde des rêves, par exemple, mais il y a d'autres modes. Il y a des modes d'existence pour les morts, par exemple, qui impliquent la constitution des milieux singuliers dans le monde, des milieux hospitaliers pour les morts. Là, on est dans ce qu'on peut appeler le pragmatisme, si comme le dit Stengers, celui-ci désigne une pensée qui accepte pour contrainte d'exclure toute idée qui, parmi ses conséquences, implique une transmutation de nos raisons en une raison qui aurait dû valoir également pour celui qui a choisi de ne pas vivre. Donc, penser devant les suicidés, comme dit Isabelle, c'est choisir le monde dans lequel être, le milieu de l'être, et non pas choisir le choix d'être. Dans ces derniers cas, alors, au fond, peu importe le monde. Plus de monde pour les morts dans ces cas. Le pauvre monde de l'être est bien inhospitalier. La politique que j'invoque pourrait rejoindre, pourquoi pas, par exemple, quelque chose comme les hypothèses farfelues des champs morphogénétiques et des résonances cosmiques d'une expérience située. Comment une forme, un objet, un être peut être réactivé, même après sa disparition dans notre monde, dans un monde qui demande un rassemblement singulier d'humains, de gestes singuliers. Ça pourrait rejoindre aussi la prière, la convocation ou l'invocation des êtres, ou une émeute qui se propage avec bonheur et qui fait douter Françoise Hollande et l'abominable Guéant, en même temps, malgré leur insolente assurance partagée. Ce ne sont que des exemples de l'activation de mondes fragmentaires et de leur résonance. On disait qu'en politique, on est tous du même monde, celui où il est nécessaire de réactiver la division propre au monde 1 de l'état du capitalisme, pour combattre ce monde, pour aller vers un autre monde qui n'en est pas un. La politique, c'est notre tradition occidentale, c'est la mienne. Au moins, on a inventé ça parmi des horreurs comme le christianisme ou l'école obligatoire ou l'industrialisation. Mais il faut penser la politique aussi pour l'ouvrir vers deux mondes où va enfin pouvoir se déployer les différents des différences. Le seul monde commun, celui de la politique, est celui de la confiance. Confiance dans les résonances entre deux mondes pluriels, malgré les seuls mondes de la violence des divisions instituées par des processus d'intégration et des formes de capture du capital. Il faut une éthique positive de la différence contre les divisions. Il est alors temps de renouer avec la racine commune des mots éthique et ethos. Jean-Claude Martin dit ça dans Plurivers, mais aussi, il me semble, Hicham a fait ça dans la communauté des êtres des natures, une politique qui ne s'autorise plus à mettre au deuxième plan les rapports entre deux mondes. Cette question d'une éthologie politique est celle des hétérotopies communistes dont il est question dans mon livre. Parce qu'il s'agit de faire du constructivisme non pas une force de pacification face aux formes de division, par exemple en faisant du Conseil constitutionnel, composé d'engences comme Dumas, Chirac, Debray, Giscard d'Estaing et compagnie, un objet digne de l'intérêt d'une épistémologie constructiviste et non pas une institution mafieuse à combattre. Là, ça va vraiment pas. Mais la politique comme antagonisme ne peut se soutenir sans que, simultanément, on ne fasse vivre des rapports agonistiques au pouvoir, comme le dit Muriel Combes dans un article sur Foucault. C'est-à-dire, si une politique doit être construite, elle s'affirme donc aussi par elle-même et non pas seulement dans son rapport à l'ennemi. Et justement parce que construite, cette politique devient irréconciliable avec les mécanismes du pouvoir, ses formes modernes de régulation et d'intégration. Une politique située, qui croit au déploiement de formes de vie incompatibles avec les capitales, et ici et maintenant, comme une issue immédiatement nécessaire, désirée, soutenue par la confiance portée au choix d'un autre monde. Peut-être qu'on pourrait appeler ça, cette articulation entre la négativité et la positivité de la politique, l'immanence du négatif. C'est peut-être aussi ce que dit Rancière très simplement dans un entretien. Il dit « Je n'ai pas des politiques à proposer ni des conseils à donner, mais ce qui manque, c'est de se constituer comme un mouvement politique d'un type nouveau, sorti de l'alternative entre les partis des gouvernements et les associations d'aide à ceci ou à cela, ou les protestations contre ceci ou cela. Il leur manque peut-être de croire en eux-mêmes, de se croire porteurs d'une force politique autonome, indépendante des agendas fixés par les pouvoirs étatiques et capable d'avoir ses propres objectifs, mais aussi ses propres formes d'organisation, ses forums, sa presse, ses moyens d'information, ses universités, ses moyens de circulation des savoirs. On pourrait ajouter plein de choses à ce projet d'une nouvelle autonomie politique. Demander que reste-t-il du contre, de l'antagonisme, de la négativité dans le rapport que j'invoque à l'hétérotopie de la politique. Je disais que peut-être il faut convoquer ici l'idée d'une immanence du négatif. Immanence du négatif en tant qu'il y a peut-être à penser la négativité de la politique, car il ne peut y avoir des politiques sans négatif, une négation du pouvoir de gouverner de ceux qui s'en autorisent ou d'exploiter de ceux qui font de la société un socius économique, ceux qu'on peut appeler les militants de l'économie. C'est Daniel Colson, dans un livre collectif sur Simondon, qui évoque cette question de l'immanence du négatif. La révolte du prisonnier ne surgit pas d'une force transcendante, de je ne sais quel sens de la liberté comme substantialité de l'être, mais des forces d'un dehors, d'un autre monde qui aspire les prisonniers vers les refus et la révolte. Un monde auquel on fait appel, autant qu'il nous appelle, car il nous permet de nous ouvrir au devenir et d'anéantir ce qui le contient et l'asphyxie. Il y a des germes de l'autre monde dans le monde ici, même en prison. Cette virtualité ne veut pas dire se fier à la pure émergence. Cette immanence négative a plutôt à voir avec ce que la politique a su inventer, le choix d'un autre monde, l'invocation dans l'intériorité du monde où s'éprouve le tort, d'un dehors à ce monde où le tort doit être aboli. On peut appeler ça le choix du choix comme premier geste de la politique, mais je pense qu'il s'agit plutôt du choix de choisir un autre monde qui s'annonce déjà dans celui-ci, ici et maintenant. En fait, on peut tourner en rond dans la question ou décision ou émergence, ou positivité de la politique ou la force du négatif qui est censée la fonder, ou immanence ou transcendance de la subjectivation. Soit on bascule d'un côté, soit de l'autre, et puis on s'en sort pas. Le saut que suppose la politique supposerait-il aussi une passion pour l'abstraction comme le propose mon ami Bernard Aspe? L'idée de la politique comme saut, Je ne sais pas. Je préférerais qu'il soit alors question de la vie des idées comme passion politique. Donc, il m'annonce du négatif et peut-être le concept qui convient. La question demeure, rester fidèle à l'idée des conséquences de la pensée. J'en reviens au texte que j'ai évoqué de Stengers sur le pragmatisme. La question demeure, rester fidèle à l'idée des conséquences de la pensée. J'en reviens au texte que j'ai évoqué de Stengers sur le pragmatisme. La question se pose alors au niveau des effets et non pas à celui de ceux qui autorisent. Le choix engage et expose. À propos des conséquences, même du hasard, il faut s'en tenir aux conséquences. J'aime cette histoire du prolo anglais, Archibald Jones, dans un roman des Addie Smith, Sourire de loup. Ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce type se trouve isolé dans un village bulgare avec son ami bangladais, Samad, alors que la guerre est déjà finie. Mais ils ne le savent pas. Ils errent dans les villages car leur blindé d'inspection est tombé en panne, complètement déglingué, jusqu'au jour où, avec l'aide des villageois, ils capturent un autre type qui s'est planqué dans une maison. Il s'agit d'un Français, malade, à l'allure aristocratique. Le prisonnier est un médecin, le portrait du salaud, un collaborateur français qui s'est adonné pendant les années de guerre à des expérimentations atroces sur des humains dans les camps de concentration allemands. Samad, enfant de la bourgeoisie bengalie, un rhéteur, un sophiste, un embrouilleur torturé, lui, par sa sexualité et la religion, est parvenu à convaincre Archibald, les prolétaires blancs, que c'est à celui-ci d'exécuter les Français collabos. Il fait nuit, Archibald s'éloigne dans l'obscurité avec les prisonniers dans les steppes glaciales, il fait traîner l'affaire, il n'arrive pas à se décider. Les prisonniers tentent de les dissuader en essayant d'établir un dialogue. Alors lui, de nature indécise, fait ce qu'il a toujours fait dans des situations importantes. Il tire à pile ou face une monnaie. Face, il les tue. Pile, il laisse s'enfuir, espérant secrètement angoissé que le hasard choisira pour lui de laisser la fuite aux prisonniers. Il tire donc dans les airs la pièce en laissant l'arme à côté de lui par terre. Mais il est comme toujours tellement maladroit que la pièce tombe 2 mètres derrière lui. Alors il la cherche à 4 pattes dans l'obscurité de la nuit et juste au moment où on aperçoit la pièce, il sent une intense douleur à la cuisse et entend la détonation d'un coup de feu. Les prisonniers, pendant qu'ils cherchaient la pièce de monnaie, se saisissent de l'arme, lui a tiré dessus et essayent de s'enfuir. Archibald est blessé et au lieu d'essayer de rattraper les Français, ce qu'il pourrait faire, crie stupéfait. Mais c'était pile espèce d'enfoiré et les laisse partir. Ah, au passage, et puisque l'on finit là, j'en profite pour vous faire savoir une nouvelle surprenante. Le monsieur tunisien dont je vous parlais au début de notre échange est parti faire un séjour de plusieurs semaines en Tunisie. Il a fait appeler un ami pour m'en informer. Cela faisait 15 ans qu'il n'y retournait pas. J'ai hâte qu'il m'explique à son retour le voyage. Mais peut-être que ça sera très mal passé.
Le communisme est rapport, en tant que la communauté n'est que relation. Si les communautés sont closes, c'est pour pouvoir s'ouvrir à des échanges différentiels dans un dehors de la communauté. Car il y a du dehors à la communauté, là où il n'y a que du dedans au système. Ce dehors, nous l'appelons communisme. Face à l'atomisation individuelle de l'être économique idéal, les collectifs, avec ou sans divinité, avec des êtres ou des processus hétérogènes au régime d'une autonomie subjective inscrite dans le raison global, sont des puissances virtuelles en mesure de créer une réalité afonctionnelle à l'économie. Cette réalité, ce sont des lieux hétérotopiques à la généralisation de l'entreprise. Les lieux de l'hétérotopie, ce sont les lieux où l'on prend soin des relations qui soignent, parce qu'elles permettent de tenir, promesses incertaines, l'actualisation de l'hétérogène. Depuis les communautés affinitaires issues d'un processus de désidentification aux catégories de la police, jusqu'aux communautés en relation avec des dieux dont le statut de prolétarien est la raison même de leur potentialité politique. Communautés en résonance, pour peu que le soin soit indissociable de la politique. Il y a aussi l'évidence qu'une politique révolutionnaire gagnerait à être posée à partir du soin, comme une politique de l'ordinaire. Le devenir ouvert de la communauté, qui a épousé les lignes historiques de la désappartenance, doit faire face au risque de la déterritorialisation. La singularité de la communauté, issue de la désappartenance, réside simultanément dans la puissance de son ingouvernementalité, le vide de son identité, mais aussi dans son inaptitude à l'échange, son incapacité à recevoir. Mais on peut aussi concevoir la désappartenance dans sa filiation avec la catastrophe, comme un exil. Parce que l'exil est une expérience historique, expérience référencée à celle de la communauté effective qui fait défaut. Il y a là une nouvelle marque du peuple. Pourquoi n'aurions-nous pas à explorer la rupture? Pourquoi n'aurions-nous pas à réinventer les nouveaux liens auxquels appelle l'exil? Non pas comme une catégorie métaphysique, mais comme un processus historique, à partir duquel la lutte contre le capitalisme et l'État a pu s'instaurer, comme la nécessité de restaurer des liens dans des lieux réels qui réinventent la transmission. Dans l'exil, issu de la suspension du lien communautaire, voire de sa destruction, il s'agit de ne pas renoncer à une histoire transmise, celle de l'intrusion de la politique comme dissolution du lien prescrit, intrusion de l'expérience concrète de la solitude, ce moment où l'on écoute le compteur pour se remémorer que des liens dissous peuvent être réactivés. Les communautés affinitaires, issues du volontarisme politique, sont, plus que toutes les autres, appelées à prendre soin des mondes.